Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Aujourd'hui, le jeu est considéré comme un loisir pour une personne sur deux. Un loisir toutefois pas comme les autres. L'Observatoire des jeux estime à 1 200 000 les joueurs pouvant présenter un signe d'addiction. Les récentes études en France montrent également que le nombre de personnes qui jouent et les sommes jouées sont de plus en plus importantes, notamment depuis le développement de l'offre de jeux en ligne. Alors la dépendance aux jeux, nommée aussi jeu pathologique, définit une addiction à tout jeu d'argent ou jeu vidéo. Le joueur perd les notions de plaisir et de convivialité et devient esclave du jeu. Alors comment éviter de perdre le contrôle? Comment réussir à ce que le jeu reste un loisir et non une dépendance avec ses conséquences? À qui en parler? Quels sont les accompagnements proposés? C'est le sujet du jour avec nos invités. Sur le plateau d'Africa Radio, nous rejoint Marc Valeur. Il est psychiatre et ancien médecin-chef de l'hôpital Marmottan, spécialisé dans les soins et l'accompagnement des pratiques addictives. Et au téléphone de la radio africaine, Laurent Carilla. Il est médecin au département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital universitaire Paul Brousse. C'est à Villejuif. Merci à tous les deux d'avoir répondu, messieurs, à notre invitation. Alors, tout d'abord, vous, Marc Valeur, l'addiction aux jeux d'argent et de hasard n'est reconnue que depuis 2014. Alors doit-elle être considérée au même titre que les autres addictions? Bonjour.
Bonjour. Oui, à mon avis, bien sûr, il faut qu'elle soit considérée au même titre que les autres addictions. Ça a été très difficile à faire valoir parce que, évidemment, c'est choquant pour beaucoup de monde de mettre quelque chose d'aussi anodin qu'un loisir comme le jeu sur le même plan que des drogues terrifiantes qui font peur ou que l'alcool et le tabac. Et pourtant, les mécanismes de l'addiction sont tout à fait comparables, même si les drames sont bien moindres, et même si ça touche un pourcentage d'usagers bien inférieur.
Oui. Alors justement, Laurent Carilla, on parle de ces répercussions. La répercussion lorsque l'on est addict au jeu, alors est-ce que ce sont les mêmes dommages que l'on peut créer au niveau social, familial et économique que lorsque l'on est addict aux drogues, par exemple, ou à l'alcool? Bonjour.
Bonjour Marc.
Salut.
Ça peut être assez similaire en fait, mais c'est vrai que les répercussions sociales, enfin genre financières, peuvent être dramatiques. Hein. On a déjà vu des situations d'endettement massif, plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros pour des jeux de hasard et d'argent. Donc il y a cet élément-là, et il y a les répercussions sur le couple, comme dans toutes les addictions, il y a les répercussions sur la famille, sur le travail, sur les hobbies, etc. Alors on est dans un, comme le disait Marc, hein, on est dans un même processus clinique, quoi.
Alors à partir de quand considère-t-on qu'on est addict au jeu? À partir de quelle fréquence, Marc Valeur?
C'est moins une question de fréquence qu'une question de vécu. La vraie addiction pour le clinicien se définit à partir du moment où la personne concernée elle-même ne trouve plus aucun plaisir dans ce qu'elle fait, elle voudrait cesser, elle voudrait réduire sa conduite et elle n'y parvient pas. C'est à la fois ce qui définit l'addiction et ce qui légitime l'intervention thérapeutique. C'est parce que la personne elle-même pense que ça va plus, qu'il faut que ça change, qu'on est légitime pour intervenir comme thérapeute.
Alors, est-ce qu'on est tous égaux face justement à cette possibilité de se diriger vers cette forme d'addiction? Est-ce que les joueurs addicts ont le même profil, Laurent Carilla?
Le même profil que... Vous voulez dire les risques...
Quel est le profil, en fait, du joueur addictif? Est-ce qu'il y a un profil?
Il n'y a pas de profil type, si vous voulez. Il y a plus d'hommes que de femmes, il y a une certaine catégorie socio-professionnelle qui peut être plus touchée que d'autres, mais il n'y a pas de spécificité, en fait. Il y a des symptômes, enfin, il y a des éléments comme la dépression, des troubles anxieux qui peuvent être associés. Après, en termes de risque de devenir addict, c'est assez similaire, quelles que soient les addictions.
Oui, Marie-Valeur.
Oui, je crois que pour schématiser, on pourrait dire qu'il y a deux grande série de personnes qui sont vulnérables, on pourrait dire. D'un côté, il y a des personnes qui sont impulsives. C'est des gens qui sont surtout des jeunes hommes qui aiment bien le risque, qui aiment transgresser, qui aiment les sensations fortes. Et ceux-là vont jouer surtout à des jeux comme le poker, les paris sportifs, tous ces jeux pseudo-actifs. Et ils vont se ils vont croire qu'ils vont pouvoir devenir des champions, etc. Et ouais, ils se prennent au jeu. Ouais. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui vont mal, qui sont mal dans leur peau, qui sont dépressifs, qui sont anxieux, et qui vont jouer pour oublier, pour se changer les idées, pour se mettre dans une bulle, ou pour faire une prière un peu magique en disant, puisque la vie a été injuste, il faut qu'elle se répare et donc je vais gagner. Donc c'est ces deux grands groupes qui sont venus, mais il y a aussi des personnes qui ont très peu de problèmes et qui tombent dans le jeu un peu par la pression sociale, par la pression du groupe et par le fait qu'ils gagnent les premiers temps. Le fait de gagner, on se dit « Ah ben, je suis un gagnant, je vais continuer, voilà ».
Alors, nous allons justement écouter un petit micro-trottoir. Selon une enquête conduite par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, réalisée en 2010, 600 000 personnes sont touchées par l'addiction aux jeux d'argent et de hasard, une pathologie souvent liée à une dépendance à l'alcool, au tabac, au cannabis. Carole Galois est partie à leur rencontre. On écoute ça tout de suite, on se retrouve juste après.
Depuis quand jouez-vous ?
Depuis toujours.
Vingtaine d'années.
3-4 ans.
20 ans.
Ça doit faire 10 ans.
Jouez-vous régulièrement ?
Toutes les deux semaines.
Je joue régulièrement.
J'ai des périodes où je peux jouer tous les jours pendant 2 mois.
Pas régulièrement, non. Ça m'arrive une fois par semaine de jouer à quelque chose.
Est-ce que vous avez déjà gagné ? Si oui, combien ?
16 euros peut-être.
Une fois j'ai gagné 300 euros.
10 000 euros.
J'ai jamais gagné, ça fait 20 ans. La semaine dernière j'en ai jeté 100 euros et la semaine d'avant 100 euros. Je suis un joueur loser.
Combien d'argent mettez-vous par semaine ?
3 euros.
C'est variable en fonction des gains. Ça peut être 200, 300.
C'est, on va dire, 50 euros.
J'allais de 50 à 200 euros par semaine.
Oui, alors pas plus de 6 ou 10 euros, mais oui, de temps en temps.
Dans les 50.
Êtes-vous accro au jeu ?
C'est comme une addiction, j'en sais, à une drogue ou quelque chose, t'as besoin de gratter.
Oui, oui, je suis très accro, y a pas de... j'assume, ben voilà, je suis pas méchant, je mens pas, c'est mon vice, ben je joue, ben voilà. C'est à mes frais, c'est qui va critiquer quoi que ce soit.
Toujours un peu l'excitation de savoir si je vais gagner ou pas, ouais, j'aime bien de temps en temps, oui.
Ça peut être sévère, bah, on s'en rend pas forcément compte, mais le jeu est très prenant, là pas du gain.
Là, ce qui m'amuse... c'est que je réfléchis pas. C'est vrai que le hasard, c'est incongru, cette incongruité m'amuse.
Petite réaction, Laurent Carilla.
C'est sur des habitudes, en fait. On voit pas. C'est pas sûr que ces gens-là aient réellement de problèmes, mais c'est vrai que on est dans un. C'est dans, enfin, le jeu, ça fait partie de la vie, quoi. On joue, on peut jouer des petites sommes de temps en temps. Il y en a qui disent je peux être accro, mais on ne sait pas si c'est réellement le vrai problème. Parce que les accros, je peux vous dire qu'ils souffrent énormément comme de vraies personnes qui ont des problèmes avec des drogues ou l'alcool, quoi.
Alors, est-ce mais que...
C'est intéressant.
Marc-Valor, est-ce que les jeux en ligne, paris sportifs, paris hippiques, cercles de jeux comme le poker, etc., est-ce qu'ils sont plus dangereux, sachant aussi qu'il n'y a pas de contrôle, en fait, en ligne ?
Il y a un contrôle du jeu en ligne par l'ARGEL, l'autorité de régulation du jeu en ligne, qui va devenir l'autorité nationale du jeu. Donc
comment contrôler si les personnes qui jouent sont majeures ou mineures ou...
Ah ben, l'identité est vérifiée. Les personnes, pour ouvrir un compte joueur en ligne, doivent faire la preuve qu'ils sont majeurs en envoyant une photocopie de leur papier d'identité, etc. Donc c'est très contrôlé. Cela dit, un certain nombre de mineurs continuent à jouer en ligne. Alors ça peut être en utilisant le compte des parents, ça peut être par divers moyens, mais c'est des tricheries. Mais ce jeu est quand même très contrôlé.
Alors les jeux en ligne, justement, on voit beaucoup de campagnes publicitaires autour de ces jeux et on voit bien que la cible, ce sont les jeunes. Laurent Carilla.
C'est clair, c'est très très ciblé, c'est un marketing très ciblé parce qu'ils savent qu'ils peuvent sensibiliser ces jeunes et ils utilisent les moyens que les jeunes adorent. Ils utilisent les systèmes de réseaux sociaux, le web, etc. C'est la ligne, c'est tout ce qui est online d'abord qui va être privilégié. Avec un appât incroyable. Moi, j'ai vu sur certains réseaux sociaux, comme Instagram ou Facebook. C'est avec Facebook que les jeunes l'utilisent de moins en moins. Mais Instagram, par exemple, on voit qu'il y a un appel à espèce d'appât pour les amener à jouer, à tenter des paris, mais ce n'est même pas des paris sportifs. Ça peut être des paris autour de, de baskets de grandes marques. Enfin, c'est hallucinant comment il les a packs et comment les petits tombent dedans. Et je fais des conférences, beaucoup de conférences dans beaucoup d'établissements scolaires et je vois quand même, ils sont quand même touchés par l'idée de parier, de faire des petits paris sportifs via leur smartphone, quoi.
Un mot à ce sujet, Marc Valeur, peut-être ?
Oui, oui, on sait bien que les adolescents sont très tentés par toutes les prises de risques, par toutes les expériences, et que c'est un public particulièrement vulnérable. Et ça intéresse énormément tous les marchands, parce que précisément à cause de cette vulnérabilité, on cible généralement pour leur vendre, parce que ça va devenir des consommateurs durables. Cela dit, en principe, les publicités qui visent les mineurs sont interdites. On essaye d'éviter que des publicités qui s'adresseraient spécifiquement à des mineurs. Parce que le but de la loi est quand même de protéger la jeunesse et de lutter contre l'addiction. Mais c'est vrai que c'est une lutte très difficile parce que les moyens des publicitaires sont à peu près infinis avec tous les réseaux sociaux, etc. C'est très difficile.
Alors, parmi les jeux appréciés, il y a aussi les courses de chevaux. Les tabacs PMU où les joueurs suivent les courses hippiques sont souvent pris d'assaut à Paris et en banlieue parisienne. On écoute ces témoignages, on se retrouve juste après.
Je joue aux courses, j'ai commencé à jouer le trot en 1955. Ça fait 63 ans.
Ouais, ça m'arrive de gagner.
Celui qui rentre au PMI, c'est mieux de même pas regarder l'écran. Il ne faut pas jouer les gars au PMI, vous allez perdre votre vie. Votre vie, vous allez la perdre si vous jouez au PMI. La famille, tout, les amis, tout, il n'y a rien.
Non, j'ai jamais beaucoup dépensé. Hein. Non, jamais. J'étais pas un gros joueur, j'étais un joueur moyen.
Et mon salaire, il part en 10 jours. En 10 jours, tu ne comprends rien du tout. Tu n'as même pas fait les vacances. Et tout le monde ici, ils ne veulent pas parler, tout c'est la même.
Oh non, 30 euros, 40 euros, qu'on n'a pas les moyens. On dépense ça, c'est beaucoup. Hein.
Le maximum que je mets sur un cheval, c'était 800 francs, qui représenterait maintenant à peu près 150 euros.
Ouais, c'est un mauvais vice. Bon, il y a beaucoup de déceptions là-dedans. Et oui, pour moi, c'est comme si c'est la drogue. Hein. Vous voyez, comme on a l'habitude de prendre la drogue, si on peut pas prendre la drogue, on n'est pas bien. Quoi. Et bien, c'est pareil les courses pour moi. Hein. C'est mon avis à moi. C'est pareil pour les courses. Et si je n'ai pas joué, c'est que je n'ai pas d'argent, mais je joue souvent.
C'est vrai, c'est assez particulier dans nos communautés. Hein. C'est vrai, le dimanche matin, par exemple, lorsque l'on se rend dans un bar tabac, on voit tous ces joueurs. On a l'impression aussi que c'est un moment qu'ils attendent toute la semaine pour se retrouver en famille, discuter. Est-ce qu'il y a des particularités concernant le PMU que vous pouvez... Laurent Carilla, est-ce que le PMU a des particularités ?
Déjà, tous ceux qui vont au bar le dimanche matin ou samedi après-midi se retrouver, tous ne sont pas addicts. Hein, déjà,
heureusement,
pour rassurer les gens, il y a ce moment de convivialité, c'est un truc sympa à la base. Et le nombre de personnes présentes, il y a une petite minorité vulnérable qui va être accrochée. Il y en a un qui dit, j'ai adoré ce qu'il a dit, ne rentrez pas au PMU, ne regardez pas la télé, vous allez perdre toute votre vie. Bah, c'est un peu la définition de celui qui est très très vulnérable. Quoi. C'est, voilà. Il y en a chez qui tout va basculer. Et il y a aussi, ce que disait Marc tout à l'heure, il y a les impulsifs qui y seront et il y a aussi ceux qui auront des pensées magiques. Je vais gagner une fois, je vais regagner. Ils sont vont être dans une spirale gain-perte et le désespoir total. Donc c'est une autre forme, le PMU. On va dire c'est une vieille forme clinique d'addiction potentielle, mais le PMU ne rend pas addict.
Alors,
il rend addict le vulnérable.
Marc Valeur, à présent, on va parler des propositions et des possibilités pour accompagner les personnes qui sont dans cet état d'addiction. Alors, est-ce qu'on soigne les addictions au jeu de la même manière que les addictions aux drogues ou à l'alcool ?
Pour l'essentiel, oui. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les addictions aux drogues ou à l'alcool, on soigne énormément les conséquences de l'addiction. Quand il s'agit d'alcool, il faut s'occuper des problèmes de foie, des problèmes de cerveau liés à la toxicité de l'alcool. Pour les addictions, on a eu beaucoup de problèmes avec les infections, les transmissions de sida, les problèmes liés aux seringues, etc. Et il y a tout le problème biologique, du traitement, du sevrage, etc. Donc pour le jeu, cette dimension-là est beaucoup plus faible. Par contre, au niveau de la prise en charge du processus addictif lui-même, c'est très proche. C'est très proche. C'est-à-dire que le cœur du traitement, ça doit toujours être la psychothérapie et la qualité de la relation avec les thérapeutes.
Oui.
Le fait que les gens soient accueillis dans un lieu où ils ne soient pas jugés, où ils peuvent parler librement, et où on va pouvoir les aider par où leurs problèmes se présentent. Dans le cas des joueurs, les spécificités, ça va être très souvent les problèmes avec l'entourage, toute la famille qu'il faut aussi accompagner, à qui il faut donner des conseils. Ça va être les problèmes sociaux, avec tous les problèmes d'argent, parfois de surendettement, qu'il faut pouvoir prendre en charge. Et les conséquences du jeu, c'est surtout la dépression due au surendettement, due aux situations invraisemblables dans lesquelles le joueur s'est mis, au fait qu'il a menti à tout le monde, il se retrouve de plus en plus isolé, de plus en plus seul. Et on pourrait dire que la dépression, avec son risque suicidaire, c'est un peu l'équivalent des graves conséquences des autres addictions. On pourrait dire que la dépression et le suicide, c'est le sida des joueurs.
Alors, les joueurs en difficulté ont peu recours au système de soins, ou souvent c'est un peu trop tard. Pourquoi, Laurent Carilla ?
Pourquoi ils ont recours trop tard au système de soins ?
Oui, ou qu'ils ont un peu de mal à demander de l'aide ?
Je pense qu'on pourrait répliquer cette question pour même d'autres substances. Hein.
Oui,
je vois pour les problèmes de cocaïne, il y a des gens, ils mettent 10-12 ans avant d'arriver aux soins parce que le problème est tellement... Je pense que maintenant, il y a suffisamment de structures spécialisées qui accueillent les gens qui ont des problèmes pour les addictions comportementales. Il y en a partout en France. Il y a des centres d'addictologie qui vont aider ces personnes avec des programmes ciblés et des problèmes qui vont se centrer sur les problèmes de jeu, mais aussi sur la problématique globale, c'est-à-dire la psychologie de la personne, l'environnement, le social, etc. Et j'attire aussi votre attention, et les auditeurs, sur il y a des associations d'anciens patients qui peuvent aider aussi ces joueurs, ceux qui ont du mal à passer le cap du médecin.
Ouais, ouais.
Le médecin traitant peut être aussi une aide, hein, mais il y a des associations du joueur, il y a des groupes sur Facebook, des groupes fermés, qui peuvent aider d'anciens addicts, qui peuvent aider. Et il y a maintenant aussi des patients experts, donc des patients d'anciens personnes addicts qui sont devenus abstinentes et qui sont devenus experts en addictologie, c'est-à-dire qu'ils ont passé un diplôme, qui peuvent être aussi très, très guidants.
Alors, on a beaucoup parlé des jeux d'argent. Il y a également les addictions aux jeux vidéo. Alors, est-ce qu'on peut en dire un petit mot, Marc Valeur ?
Oui, on est devant une problématique très différente, parce qu'il n'y a pas, a priori, les mêmes enjeux d'argent, et ça touche beaucoup des personnes jeunes qui se réfugient beaucoup dans ces jeux à un moment où ils ont un peu peur de se lancer dans la vie, etc. Donc c'est surtout cette population-là qui est concernée dans des problématiques qui sont souvent des problématiques familiales.
Ouais.
On est aussi devant un problème qui n'a pas, en France en tout cas, pris l'ampleur qu'on aurait pu craindre il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années.
D'accord.
Donc un certain nombre de personnes s'accrochent aux jeux en réseau, ont beaucoup de mal à s'en dépêtrer. Et là aussi, les centres d'addictologie sont maintenant formés et compétents pour les recevoir. Mais on n'est pas devant un problème, devant un raz-de-marée. Il ne faut pas du tout diaboliser les jeux vidéo, sous prétexte qu'il y a un risque d'addiction. Par contre, ça pose quantité de problèmes en dehors de l'addiction avérée, au niveau de l'attention, au niveau du temps passé, au niveau de la difficulté de concentration, au niveau de la quantité de messages que reçoivent les jeunes sur les écrans. Là, il y a des problèmes énormes qui sont des problèmes de civilisation.
Alors Laurent Carilla, dans ce cas, quelles sont les aides proposées, quels sont les dispositifs en place en France pour accompagner ces jeunes qui sont accros aux jeux vidéo ?
Je ne sais pas s'il y a... Je ne pense pas que tous les dispositifs en France soient encore forts face à cette demande-là, mais en tout cas, ça arrive de plus en plus.
Oui.
Nous, dans le département, on a un hôpital de jour ados, jeunes adultes, et une consultation ados, jeunes adultes, et c'est vrai que ils rentrent par ce biais de troubles de l'usage des jeux vidéo, parce que l'OMS veut le proposer comme ça, c'est pas encore validé, mais veut le proposer comme ça, donc on aura un diagnostic qui aiderait pour dire, voilà, bon, il y a un trouble avéré, mais c'est vrai que c'est quand même une partie émergée d'une grosse problématique, c'est-à-dire que il n'y a pas que le jeu vidéo en cause, quoi. Ça masque plein de choses,
ouais.
Surtout dans la problématique adolescent, jeune adulte. Donc on leur propose des programmes qui sont ciblés autour de la thérapie comportementale, autour de groupes, autour... on veut utiliser aussi en expérimentation tout ce qui est thérapie par réalité virtuelle, parce que c'est une population qui est assez sensible à ces éléments-là. On veut utiliser des éléments qu'ils utilisent de manière problématique pour essayer d'améliorer les choses, et en aucun cas on va sur une cible de l'abstinence totale en écran ou en jeu vidéo. Voilà.
Alors il y a des aides hein, pour accompagner les personnes qui souffrent de ces addictions. Alors il y a le site joueurinfoservice.fr, il y a une ligne également ouverte de 8h à 2h, c'est le 09 74 75 13 13, 09 74 75 13 13, n'hésitez surtout pas, il y a l'hôpital Marmottan également, c'est un centre de soins et d'accompagnement des pratiques addictives, c'est dans le 17e arrondissement de Paris, donc n'hésitez pas à aller sur internet pour en savoir un petit peu plus. Je vais vous laisser dire un dernier mot. Quels sont les derniers conseils que vous avez envie de donner, Marc Valeur, aux auditeurs qui nous écoutent et qui se sentent un peu concernés ce matin par le sujet?
Je crois que sur le jeu d'argent, il faut bien savoir que il faut pas imaginer qu'on va gagner de l'argent en jouant. Il faut se méfier de toutes les publicités actuellement qui sont beaucoup sur les pronostics sportifs.
Ouais.
Et il faut pas croire que ça pourrait être une alternative au travail, etc. Et ça s'adresse surtout aux jeunes. Surtout, ne rêvez pas que vous allez devenir un champion du jeu. Ça marche jamais. Le jeu, ça peut être un loisir. C'est sûrement pas une source de revenus. Et pour les jeux vidéo, simplement, il n'y a pas que ça dans la vie, mais c'est pas un drame. Là, c'est plutôt aux parents qu'il faut dire, ne fliquez pas trop vos enfants si vous les voyez jouer devant des jeux vidéo.
Je vais vous laisser également dire un dernier mot. Quels sont les derniers conseils que vous avez envie de donner aux auditeurs, Laurent Carilla?
Moi, je crois que Marc a dit l'essentiel. Hein. C'est vrai qu'il n'y a jamais de gagnant au jeu d'argent, ça c'est clair et net. Quoi. Donc, si vous êtes embourbé dans un problème de jeu d'argent, il faut tout de suite penser à vous faire aider, quoi. Au moins à vous faire évaluer, ou à vous auto-évaluer. Pour les jeux vidéo, pareil, il ne faut pas diaboliser les jeux vidéo. Et moi, je dirais un truc aux parents, c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup, c'est les études ont montré que couper l'accès aux jeux vidéo, ça a les mêmes répercussions qu'un jeu vidéo excessif. Donc, il faut aller dans une histoire de régulation et d'autorégulation. C'est facile à dire en théorie,
ouais.
Mais c'est de l'entraînement comme du jogging pour faire un marathon. Et on peut y arriver, et c'est quelque chose sur lequel on se penche actuellement.
Merci beaucoup Laurent Carilla, je rappelle que vous êtes médecin au département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital universitaire Paul Brousse de Villejuif. Merci beaucoup de vous être rendu disponible au téléphone d'Africa Radio ce matin. À bientôt. Merci à vous aussi, Marc Valeur, d'être venu en plateau. Vous êtes psychiatre et ancien médecin-chef de l'hôpital Marmottan, spécialisé dans les soins et l'accompagnement des pratiques addictives. Merci beaucoup d'être venu apporter vos éclairages aux auditeurs d'Africa Radio ce matin. L'émission sera téléchargeable dans quelques heures sur les réseaux d'Africa Radio. Merci beaucoup d'être venu, à très bientôt. Merci à Nadir Djinnad pour la préparation de cette émission.